Quartus, quenos ancor a la primera epístola corinthian. Y por ceux qui les défaillent dimanche, nous avons débuté une série sur la primera epístola corinthian. Et les chartes nous donnent un encadrement à suivre sur la charte à notre gauche, ce qui est bleu indique l'élément négatif, l'orange indique le positif, parce que c'est un progrès à travers l'épître qui commence en condamnant des choses qu'il faut absolument rejeter et qui se termine avec ce qui est complètement positif et que nous devons rechercher. Et le dessin à notre droite détaille la première section de l'épître. Nous avons parlé de la polarisation du dimanche soir, et ce soir nous sommes arrivés à la deuxième convoitise charnelle à abandonner, qui est le prestige humain. Alors nous lirons chapitre 1 à partir du verset 18 d'abord. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ensuite, chapitre 2, à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ce concernant le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Puis, juste quelques versets au chapitre 4, le verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Puis, verset 9. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Et voilà un résumé alors de cette section de l'Épître que nous cherchons à toucher. Et vous avez bien vu qu'il y a beaucoup de positions prises contre le prestige humain qui est une convoitise charnelle à abandonner, qui ne doit avoir aucune place dans la vie d'un chrétien. Parce que après tout, le prestige humain est entièrement opposé au message de la croix. Et Paul a dit, chapitre 2, verset 2, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le Seigneur Jésus a dit même, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc si nous voulons que le monde soit attiré au Seigneur Jésus, il faut que ce soit lui qui sera élevé. Mais si nous laissons le prestige humain prendre une place dans notre vie personnelle ou dans notre vie d'assemblée, nous allons distraire le monde de notre sauveur et nous n'allons pas attirer les hommes au Seigneur Jésus. Nous allons élever des hommes à la place. Donc nous devons abandonner le prestige humain comme une convoitise charnelle. Ça inclut alors d'abord le prestige basé sur notre formation et ensuite le prestige basé sur nos accomplissements. Il y a ces deux genres de prestige qui peuvent être des tentations. Regardons alors premièrement le prestige basé sur notre formation qui est décrit dans le premier chapitre disant que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages et ce qui est méprisé pour confondre ce que l'homme glorifie. Et nous devons rejeter le prestige basé sur notre formation parce que la formation efficace est méprisée par le monde. Pour avoir une formation efficace, il faut être qualifié de livrer un message qui justement est méprisé, le message de la croix. Les Juifs recherchaient des miracles, c'est pour cela que du temps du Seigneur Jésus, les Juifs lui demandait toujours de faire un signe ou un miracle pour prouver qu'il était le Messie, qu'il avait la puissance de Dieu. Et le Seigneur a refusé parce qu'il avait déjà fait assez pour montrer qui il était à ceux qui étaient réceptifs. Les Grecs recherchaient quelque chose qui chatouillait l'intellect, l'intelligence, de ce qu'ils appellent la sagesse ou la philosophie. Et l'histoire nous dit justement que les Grecs étaient fous de la philosophie de toutes sortes, mais qui n'étaient pas guidés par la sagesse divine. Mais la croix, c'était quelque chose de méprisé par les Juifs et Grecs, parce que la croix était regardée comme étant un genre de mort tellement honteux que même un bon citoyen romain devait éviter d'en parler et devait éviter même de prononcer le mot croix ou crucifixion. Mais Dieu a choisi de se servir du message de la croix pour sauver les hommes afin que toute la gloire soit à lui. Et nous devons non seulement livrer un message méprisé, mais devenir des instruments méprisés afin que la gloire ne soit pas attribuée à nous. C'est pour cela que Dieu a choisi particulièrement les choses qui sont méprisées par le monde. Alors attention, ces versets ne sont pas un encouragement à lâcher nos études avant le temps ou de dire qu'il y a une vertu particulière dans l'ignorance, mais simplement la recherche de ce qui nous donnera le prestige. Tout ce que nous pouvons apprendre qui va être vraiment utile, qui va aider à gagner notre vie, qui va aider à servir Dieu et servir les autres très bien, mais faire des études ou quoi que ce soit d'autre, simplement pour avoir du prestige aux yeux du monde, ça ne doit pas avoir de place dans la vie d'un chrétien. Et je crains même que c'est pour cela que des hommes ont établi la notion que le ministère spirituel est une profession et qu'il faut avoir une formation professionnelle pour l'exercer. et de là est venue l'idée des séminaires. Et puis il y a les soi-disant instituts bibliques qui sont moins extrémistes, qui donnent au moins pas de degré, mais qui créent un peu quand même cette idée de professionnalisme. Et moi-même, j'ai fait des études dans une école biblique avant de réaliser les principes bibliques des assemblées qui se réunissent au nom du Seigneur Jésus. Et je peux parler aussi de qu'est-ce que nous pouvons avoir contre l'idée au juste. Pour une chose, ça crée cette notion de professionnalisme. Et en terminant mes études bibliques dans une école de ce genre, bien j'ai reçu un diplôme, pas de degré, mais un diplôme. Et alors, il me semble tout naturel, quand j'ai pris la charge d'une église qui m'a fourni un bureau, il me semble tout naturel d'afficher mon diplôme, tout comme un médecin ou un dentiste affiche son diplôme dans son bureau. Mais plus tard, quand j'ai réalisé combien un tel diplôme n'a pas de valeur, je l'ai jeté. Parce que, après tout, le fait d'avoir fait des études ne prouve pas qu'on a le don, et ça ne prouve pas non plus que nous avons atteint la maturité spirituelle nécessaire pour un ministère. Un autre tort qu'une telle école fait, c'est d'enlever le frère de son assemblée et du monde qui l'entoure et le mettre dans une atmosphère artificielle et isolée. Et même, on souffre souvent d'une indigestion spirituelle parce qu'on reçoit de l'enseignement biblique tout le temps et on ne s'en sert pas. Et alors, on se sent spirituellement un peu comme on se sentira physiquement si on mange un gros repas de dinde, des patates au four et d'autres légumes et une tarte à la mode trois fois par jour tous les jours et qu'on prenne jamais d'exercice. On se sent comme ça spirituellement souvent quand on étudie dans une de ces écoles. Et aussi, souvent des instituts bibliques deviennent plutôt des instituts de mariage. Si on ne trouve pas un conjoint ailleurs, on va à l'école biblique pour en trouver. Et l'école que j'ai fréquentée voulait éviter de devenir comme ça. Alors, pour l'éviter, on nous défendait de parler au sexe opposé sauf pour dire bonjour. Et vous pouvez imaginer aussi le tort que ça fait psychologiquement. Alors, je ne dis pas que mes études m'ont fait aucun bien, mais il y aura certainement eu une meilleure façon d'être formé. Et je pense que Dieu a pris le relève dans ma vie en mesure qu'il m'a éclairé. Mais cette notion de professionnalisme fait partie justement du prestige humain qui ne devrait pas avoir de place dans la vie d'un chrétien ni dans la vie de l'assemblée. Et la formation efficace est méprisée par le monde parce que Dieu doit souvent nous donner une image méprisée par le monde, être vu comme étant des fous ou des choses folles, des choses méprisées, choses faibles. Et en plus du fait qu'une formation efficace est méprisée par le monde, une formation efficace est une œuvre divine parce qu'il faut que ce soit Dieu qui nous communique son message et qui nous forme pour l'annoncer. L'apôtre Paul spécifie au chapitre 2 qu'il ne dépendait pas de l'éloquence pour convaincre le monde de la vérité de son message. Il dit plutôt au chapitre 2, verset 3, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et voilà la raison pour laquelle Dieu ne veut pas que ce soit la sagesse humaine en nous qui convainc le monde. Ce qui se base sur une sagesse humaine peut toujours être renversé par une plus grande sagesse humaine. Si vous aviez cru à l'Évangile parce que un homme éloquent vous avait convaincu, alors quelqu'un qui propage une secte pour venir et parler d'une façon plus éloquente, et qu'est-ce qui arriverait à votre foi? Mais puisque notre foi se repose sur Dieu seul, et sur le message de la croix de Christ, alors il n'y a rien qui puisse le renverser, parce qu'il n'y a rien qui puisse prendre la place de la croix de Christ. Et Dieu emploie aussi un moyen spirituel pour nous communiquer le message. Il dit, il communique des choses spirituelles par les moyens spirituels, ou qui pourrait se traduire aussi aux objets spirituels, selon la fin du verset 13. C'est pour cela que l'homme naturel ne peut pas saisir le message de la parole de Dieu, parce qu'il n'est pas sur la bonne longueur d'onde. Et une formation efficace exige que Dieu fasse une œuvre spirituelle en nous d'abord pour que nous puissions nous-mêmes saisir sa parole, et alors nous pouvons le communiquer à d'autres en dépendant du même Saint-Esprit pour ouvrir les cœurs. Donc, un prestige basé sur notre formation n'a aucune valeur, puisque l'efficacité de notre message dépend entièrement de Dieu et non pas d'une formation humaine de notre part. Une formation divine va forcément élever Christ et non pas l'homme. Mais nous devons aussi rejeter le prestige humain basé sur nos accomplissements. Parce que, pour une raison, un accomplissement valable est un effort collectif. Un accomplissement qui a une valeur aux yeux de Dieu ne sera jamais le résultat de l'œuvre d'un seul homme ou d'une seule personne, mais plutôt chacun fait sa contribution, comme Paul dit au chapitre 3, verset 5. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Donc chacun fait sa contribution et il n'y a aucun individu qui ait le droit de réclamer cette œuvre comme étant la sienne. Tout accomplissement valable est le résultat de la collaboration de plusieurs dans le corps de Christ. Et c'est Dieu qui fait l'essentiel de faire croître. La croissance est ce qui prouve la présence de vie. Nous sommes simplement des instruments, des serviteurs et non pas des chefs à élever. Aussi, en plus du fait qu'un accomplissement valable est un effort collectif, un accomplissement valable est une grâce divine parce que c'est Dieu qui rend capable d'accomplir de quoi. C'est pour cela que, selon le verset 7, chapitre 4, verset 7, qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Oui, Dieu regarde à la fidélité, selon le verset 2. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et Dieu regarde à la fidélité, et celui qui fait l'accomplissement. Donc l'homme n'est pas qualifié d'évaluer une œuvre, parce que c'est Dieu qui l'accomplit, nous ne voyons pas tout ce qu'il accomplit. Et non seulement l'accomplissement, mais même la capacité que nous avons d'accomplir une œuvre est toute une grâce divine, quelque chose de donné, et nous n'avons rien que nous n'avons pas reçu de la part de Dieu. Alors, un accomplissement valable est le résultat d'un effort collectif, pas l'effort d'une seule personne. Un accomplissement valable est une grâce divine, c'est Dieu qui rend capable de le faire. Et un accomplissement valable est méprisé par le monde. Les Corinthiens pensaient avoir accompli de quoi que ce soit un sujet de se glorifier. Et Paul parle d'une manière qui se moque d'eux, mais pour leur propre bien, en disant, verset 8, « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner, et puissiez-vous régner, en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. » Les Corinthiens voulaient vivre comme s'ils étaient déjà rendus au ciel, et comme s'ils avaient déjà leur récompense. Et Paul leur dit, « Oui, vous parlez comme si vous aviez déjà tout, mais en réalité, tout ce que vous accomplissez, c'est une belle façade. » Et vous vivez d'une manière complètement contraire à l'esprit crucifié. Vous voulez être bien vu aux yeux du monde. Et que tout le monde vous admire à cause de vos accomplissements. Puis Paul parle des apôtres en contraste avec l'attitude des Corinthiens. Et parle de toute leur souffrance et comment les apôtres étaient méprisés par le monde comme si c'était un échec total, parce que la souffrance qu'ils subissaient, et la souffrance de l'apôtre Paul en particulier, donnait l'impression de voir échouer. Après tout, qui penserait que quelqu'un qui sert Dieu serait souffrirait de tous ces manquements? Le monde pourrait lui dire, voyons donc, est-ce que votre Dieu ne s'occupe pas de vous? Est-ce qu'il ne vous pourvoit pas le confort et une bonne position dans ce monde? Et alors, il a été méprisé par le monde. Tandis que les Corinthiens voulaient être bien vus par les hommes à cause des accomplissements qu'ils pensaient avoir. Mais non, l'accomplissement recherché plutôt, c'est une œuvre qui va glorifier Dieu par notre dévouement et qui va l'élever. Et Paul donne le portrait comme si nous sommes un spectacle, selon le verset 9, aux hommes et aux anges. Mais les différents spectateurs n'ont pas tous la même attitude. Les hommes méprisent les chrétiens qui sont un spectacle au monde, mais les anges l'apprécient. Les anges sont à l'école de Dieu aussi pour apprendre quelque chose sur notre salut. Et les anges qui nous voient souffrir pour Christ apprennent que Dieu a accompli en nous un amour pour lui qui nous pousse à nous dévouer, même si ça coûte la souffrance. Sommes-nous prêts alors à glorifier, à élever notre Dieu par un dévouement qui coûte la souffrance et même si... s'il n'y a pas de résultats visibles, ou si les résultats visibles sont des résultats qui sont méprisés par le monde. Un accomplissement valable est le résultat d'un effort collectif, et c'est une grâce divine, et il est méprisé par le monde. Nous devons donc tout faire pour éviter ce piège du prestige humain. Et comment, qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter la convoitise charnelle du prestige humain, le prestige basé sur notre formation ou le prestige basé sur nos accomplissements? Une manière, c'est de faire très attention de ne pas mettre les ouvriers chrétiens sur un piédestal, comme si le fait que quelqu'un est recommandé à l'œuvre le rendait spirituellement supérieur aux autres. Loin de là, nous sommes tous des serviteurs inutiles. Aussi, si quelqu'un dans l'assemblée reçoit une certaine fonction, comme si un nouveau frère devient ancien, par exemple, nous ne devons pas regarder ce qui lui arrive comme étant une promotion ou comme s'il a acquis une nouvelle position, parce que cela aussi va attacher du prestige à sa position. Ou une autre fonction aussi, comme si quelqu'un prend la charge, par exemple, de la bibliothèque ou du codophone, nous serons bien contents. Ce sera un ministère, mais il ne faut pas le regarder comme étant une promotion ou comme s'il a monté un peu sur l'échelle dans l'assemblée. Et aussi, nous devons faire attention à notre langage et aux termes que nous employons en parlant de l'œuvre de Dieu, comme de dire, il a amené telle personne à Christ, comme si c'était cette personne qui avait tout fait de A à Z pour conduire une âme au salut. Nous devons nous rappeler plutôt que le salut d'une âme étant un accomplissement valable est le résultat d'un effort collectif et pas l'effort d'un seul homme. Et aussi, une autre expression à éviter, c'est « cet ouvrier a implanté cette assemblée », comme encore si c'est de cet ouvrier qui a tout fait de A à Z. On peut toujours trouver que c'est un effort collectif d'implanter une assemblée, d'amener une âme individuelle au salut, de faire quoi que ce soit de valable pour le Seigneur. Et après tout, qui est-ce qui convainc de péché, qui conduit vraiment une âme au salut, qui lui fait voir son besoin de salut, et qui est-ce qui convainc les chrétiens des vérités sur le rassemblement chrétien, si ce n'est le Saint-Esprit? Alors, où est le sujet de nous glorifier pour nous-mêmes? Que Dieu nous garde et nous délivre du piège de cette convoitise charnelle du prestige humain. un prestige basé sur notre formation que nous croyons nous qualifie pour le servir, ou un prestige basé sur nos accomplissements. Donnons plutôt la gloire au Seigneur. Éternel Dieu, nous désirons que ce soit ton Fils bien-aimé qui sera glorifié, car tu as choisi les choses méprisées du monde pour être tes instruments pour confondre les sages et les forts. Et ainsi, il n'y a pas de sujet de nous glorifier pour nous-mêmes. Nous n'avons rien que nous n'avons pas reçu. Mais que tu nous mettes à cœur et nous donnes la grâce de te servir ardemment comme tes esclaves d'amour, afin que notre Seigneur Jésus en tire toute la gloire et que lui seul soit élevé devant nous. Et étant élevé, qu'il attire tous les hommes à lui. C'est là notre désir, en son nom et pour sa seule gloire. Amen.